Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 25 avril 2022, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Les condamnations fusent de partout après les différentes attaques contre les forces armées maliennes. Au même moment, l'armée annonce l'ouverture d'une enquête sur l'affaire dite des dépouilles en état de putréfaction avancée à Gossi. La médiation internationale s'inquiète du manque d'avancées notoires dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Elle l'a fait savoir la semaine dernière lors d'une rencontre virtuelle. À quelques jours de la fête de Ramadan, la course pour avoir de la viande a déjà commencé. Cependant, dans les parcs à bétail et les sites promotionnels de vente, les clients jugent les prix des bœufs très élevés. À la présentation de ce journal, Hamsetou Touré. Les condamnations continuent après les attaques perpétrées le week-end dernier contre l'armée malienne dans le centre du pays. Plusieurs regroupements, partis politiques et autres partenaires ont, à travers des communiqués, regretté les attaques et réitéré leur solidarité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Les détails avec Fatih Attara.
Parmi les partenaires, on peut citer la mission onusienne. Dans un communiqué, les responsables de la mission ont condamné ces attaques qui ont visé les Fama, Asevare, Bafo et Nyono ce dimanche 24 avril 2022 dans le centre du pays. La MINUSMA exprime sa solidarité envers les forces armées maliennes et présente ses sincères condoléances aux Fama et au peuple malien. Le comité stratégique du M5RFP, le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie, les partis Far Ankawili, les partis Concertation démocratique et Union des femmes et communautés culturelles pour la paix ont aussi fermement condamné ces attaques qu'ils qualifient de barbares. Ils ont ensuite présenté leurs condoléances et exprimé leur soutien indéfectible aux femmes. Rappelons que le bilan provisoire de ces attaques simultanées communiquées par l'armée est de 6 morts, 20 blessés côté femmes et 13 assaillants neutralisés.
Le calme est revenu ce lundi à Mopti et les habitants de la ville vaquent librement à leurs occupations. Cependant, l'attaque du camp de Sévaré situé au cœur de la ville est diversement commentée par les Mopticiens. Si pour certains, cette attaque aurait pu être évitée si les forces armées de sécurité collaborent bien avec la population, d'autres invitent les militaires à redoubler d'efforts et à rester vigilants. Écoutons leur réaction au micro de notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum.
Ce que je peux dire, que l'armée soit sur le veille, qu'ils sachent que c'est des actes qui seront forcément reproduits, que ce soit à Mopti ou bien dans les environs.
Il faut être très vigilant aujourd'hui, là où nous sommes, parce qu'on est à une guerre asymétrique. Surtout les sentinelles qui sont aux devantures des portails. Donc il faut être très vigilant et fouiller tout et connaître ceux qui sont à l'intérieur.
Bah, présentement, la situation est vraiment calme. Présentement, c'est vrai, bien que le marché a été vidé pour raison de sécurité, la population de Sévaré continue à vaguer à ses occupations. Je pense que la situation, en tout cas à l'heure où je vous parle, est maîtrisée et calme. Tout le monde vague à ses occupations.
Pendant ce temps, la direction de l'information et des relations publiques des armées communique sur l'affaire dite des dépouilles en état de putréfaction avancée découverte près de la base que l'armée française avait restituée le vendredi dernier au FAMA. Pour les responsables de la DIRPA, l'enquête ouverte permettra d'établir bel et bien que les FAMA et leurs partenaires n'ont rien à voir avec ce charnier. Maman Babakunta.
Pour le colonel Souleymane Dambélé, ces allégations contre les FAMA à Gossi n'ont qu'un seul objectif, faire savoir au monde que les Maliens utilisent la société privée Wagner.
Pendant des années, une force étrangère est là pour lutter contre le terrorisme. Et malgré tous ses équipements, ses détenteurs, elle n'a pas pu filmer les massacres de Maliens. Donc elle se met à espionner les forces armées maliennes qui se sont installées là-bas pour essayer de discréditer non seulement les forces armées maliennes, mais aussi tout le pays entier.
Sur la question de la menace diffusée sur les réseaux sociaux par la Katiba di Massina, colonel Souleymane Dambélé indique que les forces armées maliennes ont relevé les niveaux de sécurité autour de certains endroits stratégiques.
Dans une guerre, il y a la guerre informationnelle. Et le vocal du terroriste qui a été émis, c'est pour faire peur. Pourquoi ils ne l'ont pas dit depuis? Mais les dispositions ont été quand même prises pour la sécurisation de Bamako et pratiquement dans toutes les grandes villes.
Quant au bilan des 3 attaques kamikazes sur le camp des militaires maliens de Sévaré, Bafo et Nyono, la direction a souligné que le bilan du côté ennemi a évolué. Il est passé de 11 à 13 terroristes tués.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre titre de ce journal, Accord pour la paix et la réconciliation. La médiation internationale se dit préoccupée par l'absence d'avancées tangibles dans le processus de paix. Elle s'inquiète aussi des déclarations de nature à accroître la méfiance entre les parties. Dans un communiqué, la médiation a rappelé la responsabilité primordiale des parties maliennes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'était au cours d'une réunion virtuelle tenue le 20 avril 2022. Idrissa Sako.
La médiation regrette que les parties n'aient pu tirer avantage de la dynamique née de la 45e session du comité de suivi de l'accord tenu le 5 octobre 2021. Les membres de la médiation internationale rappellent que cette impasse dans le processus de paix intervient dans un contexte sécuritaire complexe et difficile, tant au Mali que dans le reste de la région. Cette situation est, selon elle, marquée par un nombre effrayant de victimes civiles dans des violences. Dans ce texte, la médiation internationale a insisté sur la nécessité de la tenue rapide de la réunion décisionnelle de haut niveau le plus rapidement possible. Cette rencontre rappelle que la médiation devrait initialement avoir lieu dans les 2 semaines suivant la 45e session du CSA. Elle avait pour objectif de trouver un consensus sur les questions cruciales du DDR et des réformes pour la pleine mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Enfin, les membres de la médiation internationale ont réaffirmé leur engagement à continuer à accompagner les parties maliennes.
Autre actualité du jour, depuis le début du mois de Ramadan, les heures de service ont été réorganisées dans les services publics. Si pour certains, cette réorganisation n'impacte pas le travail, pour d'autres, ça rend la journée longue. Dans les services, plusieurs agents apprécient cette réorganisation des heures de travail, une chose qui permet d'atténuer la souffrance des travailleurs pendant le Ramadan, disent-ils. Notre reporter Kouan Diara a fait un tour dans certains services, suivant donc son reportage.
Il est 8h à la mairie centrale de la commune 3 du district de Bamako. L'ambiance est morose, mais tous les agents sont déjà sur place. Mais ici, on regrette le non-respect des heures de descente. Kanyi Sanogo, secrétaire général de la mairie.
Bon, réellement, que ce soit cette réorganisation ou pas, il y a certains agents qui sont peut-être réfractaires à la ponctualité. Et voilà, et du coup aussi, certains agents, après-midi, ils sortent et ils ne reviennent plus. Voilà, que ce soit le mois de carême ou pas, bon, ce constat quand même est là.
À la Direction nationale de l'enseignement normal, les responsables sont exigeants sur le respect des horaires de travail fixés par les autorités. Le chef de section administration, Ousmane Guindo, affirme que tout le monde est tenu d'attendre 16h30 avant de quitter le service.
Ici, à l'éducation, à la Direction nationale de l'enseignement normal, personne ne quitte avant 16h30 parce que les directeurs tiennent beaucoup au respect du temps réel du travail. Je peux sans hésiter dire que personne ne quitte ici avant 16h30.
Pour mieux appliquer le respect de ces engagements, certains responsables de service envisagent de sanctionner ceux qui ne respectent pas les horaires de descente.
À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, les parcs à bétail et les sites promotionnels de vente sont remplis de bœufs. Malgré cette abondance, les prix sont jugés très élevés par les clients. Pourtant, les vendeurs expliquent cette hausse par un chapelet de raisons dont l'insécurité. Notre reporter Omar Waigalo s'est rendu au parc de Kati. Voici donc son reportage.
Nous sommes à l'intérieur du parc des Drales de Kati. Ici, le parc est rempli des bœufs et des vaches de toutes les couleurs et de tous les poids. Les prix varient entre 200 000 et 600 000 en fonction du poids de l'animal. Ces prix sont vraiment exorbitants, déplorent certains clients.
Nous sommes venus chercher notre bœuf de la fête de Ramadan. C'est très très cher par rapport à l'année précédente. Là.
Les bœufs sont vraiment chers. Je pense que c'est à cause de la cherté des aliments bétail.
Comme ici,
Cette année, nous ne pouvons pas acheter de bœufs parce que les bœufs qui étaient vendus à 200 000 francs sont cédés présentement à 300 et 400 000 francs CFA.
Cependant, les vendeurs reconnaissent cette hausse. Ils affirment qu'elle est liée à la cherté des aliments bétail.
Les bœufs sont très chers. Le troutau aussi est cher. Une tonne de troutau coûte 250 000 francs aujourd'hui devant les marchés à bétail. Si tu payes du troutau pour nourrir les bœufs, obligatoirement le prix des bœufs va augmenter. Si tu n'augmentes pas le prix, tu vas perdre de l'argent. Ça fait 5 mois que j'ai ces bœufs avec moi.
Pour faire face à cette hausse des prix des bœufs, une vente promotionnelle a été lancée ce lundi par le ministère du Développement Rural. C'est au Chaba Terrain, en commune 4 du district de Bamako.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, faisons un tour en région. Pas de réseau téléphonique à Bamba et à Temera. Cette situation pousse les populations à se déplacer à des trentaines de kilomètres de leur localité pour téléphoner ou procéder à des transactions financières. Des habitants de ces localités indiquent qu'à Zurey, à 30 kilomètres de Bamba, dans la commune de Mber, et à Bormo, à 25 kilomètres de la ville de Temera, ils s'organisent en convoi pour aller faire des opérations ou communiquer avec leurs proches. Ils interpellent les autorités à trouver une solution rapide à ce problème. À présent, nous recevons Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Nous revenons aujourd'hui sur le débat dont le thème était « Que retenir de l'interpellation du chef du gouvernement devant le CNT ?» Amadou Aya est notre invité. Il est membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali, CPM, un soutien du premier ministre de la transition, et Fodié Tandjougoura, sociologue et écrivain. Merci.
Merci Mariam. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. La journée internationale de lutte contre la méningite a été célébrée ce dimanche 24 avril 2022 à travers le monde. Au Mali, cette maladie est sous contrôle, affirment des responsables de la sous-direction de lutte contre la méningite. Oumou Yacouba Koulibaly du département de la santé indique que depuis 2017, le Mali n'a pas enregistré une épidémie de méningite. Toutefois, elle explique qu'en 2022, le pays a enregistré un taux de 152 suspects, dont 15 confirmés. Selon elle, la majorité de ces cas sont des enfants de moins de 5 ans. Oumou Yacouba Koulibaly de la sous-direction de lutte contre la méningite répond aux questions de Adama Amadou Haïdara.
La méningite est une maladie à potentiel épidémique qui fait partie de la liste des maladies prioritaires sous surveillance épidémiologique au Mali. Elle est susceptible de provoquer des épidémies qui peuvent survenir pendant la saison sèche. Et quand les épidémies surviennent, ça peut entraîner beaucoup de malades. Donc la morbidité et la mortalité sont souvent élevées. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne d'une personne à une autre par des gouttes. De sécrétion rhino-pharyngée d'individus infectés.
La méningite, comment ça se manifeste?
Ça se manifeste par une forte fièvre d'apparition brutale associée à l'un des signes qui peut être la raideur de la nuque, l'altération de la conscience ou autres signes méningés, y compris le bondement de la fontanelle chez les nourrissons.
Qu'en est-il actuellement au Mali?
On peut dire que la situation est calme. De la première à la 15e semaine, nous avons enregistré 152 cas suspects, dont 15 confirmés. On n'a pas enregistré des districts en alerte ni en épidémie.
Qui sont les personnes vulnérables à cette maladie?
Les personnes vulnérables, c'est surtout les moins de 15 ans. Quand on prend les cas confirmés, la tranche d'âge moins de 5 ans, tous les cas confirmés qu'on a sont dans cette tranche-là.
Comment se fait la prise en charge?
Et on a un protocole de prise en charge des cas qui est efficace. Le traitement est entrepris après le prélèvement dès qu'il y a la suspicion. Quand le traitement est entrepris très tôt, conformément au protocole en vigueur, Les séquelles sont vraiment minimes.
Mais est-ce que c'est une maladie qui peut être fatale?
La létalité varie entre 8 et 15%. Même les cas pris en charge, il y a des cas qui peuvent décéder. Mais en dehors du traitement, la létalité est très élevée, ça peut aller jusqu'à 70%.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour prévenir cette maladie?
Il y a les vaccins qui sont dans les tests de routine et pour les enfants. De moins d'un an, quand les enfants suivent le calendrier vaccinal, ça leur permet de les protéger contre plusieurs autres souches qui peuvent provoquer la méningite.
Est-ce que des mesures ont été prises pour limiter la propagation de cette maladie?
Il y en a eu beaucoup et les actions continuent encore. Depuis 2012, il y a certains germes qui ne circulent plus, dont les méningites dues au méningocoque A. Les grandes épidémies qu'on a enregistrées étaient dues à cette souche. Depuis 2016 même, on n'a pas enregistré d'épidémie de méningite. La dernière épidémie enregistrée, c'était dans le district de Wiletebou en 2016.